Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Ce matin, un voyage culturel et historique dans les villages de France avec Mathias Debureau qui publie un excellent guide mondain des villages. Notre chef Grégory Cohen vous proposera une recette légère et savoureuse à souhait et Christy Lapelle-Edouel vous conseillera des livres qui font du bien. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Une chronique philo d'actualité ce matin.
Oui, on va dire au revoir au masque qui nous accompagnait depuis 2 ans, puisque dès lundi, on ne sera plus obligé de les porter dans les transports collectifs.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Merci de me prêter vos lunettes loupe, parce que je ne vois rien ce matin. Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié, et c'est une aristocrate anglaise qui deviendra notre camarade cette semaine.
Oui, absolument, et bon, je le dis tout de suite, son prénom c'est Violet. Parce qu'en ce moment, vous avez remarqué, le violet, le parme, le mauve, c'est très à la mode.
Bonjour Maya Mazorette, qui préfère que je la tutoie tout au long de l'émission. Quel est le menu de ta chronique sexe en fin d'émission?
Et bien, puisqu'on va parler du guide mondain des villages de France, on va rester dans les mondanités et on va parler du pénis des stars.
Ouh là là,
grand sujet.
Avec
grand
nous, sujet. En fin d'émission, il y aura des révélations. N'hésitez pas à réagir sur l'appli France Inter et au 01 45 24 7000. Dites-nous par exemple quel est votre plus beau village en France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rémy.
Notre chef qui publie à La Martinière partage 70 recettes simples et conviviales issues notamment de vos interventions dans cette émission. Au menu de ce week-end, mon cher Grégory.
Eh ben, au menu de ce week-end, on va faire un tataki de thon en croûte de sésame avec une petite sauce au gingembre pour l'accompagner.
C'est quoi un tataki pour ceux qui ne connaissent pas?
Pour moi.
Alors, pour Maya.
Pour Maya. Alors, du thon d'ailleurs, pour Maya, pour lui expliquer ce que c'est que ce poisson magnifique. Non, le tataki, en fait, c'est un mi-cuit de thon, très très légèrement cuit sur la croûte et cru à cœur.
Alors Grégory, j'ai l'impression que vous êtes dans votre salle de bain, là, non?
Ça résonne un peu, c'est ça? m'entends, en fait, c'est très étonnant, je suis pas du tout dans ma salle de bain, mais effectivement, je m'entends.
Alors, question d'Amaury, Grégory Cohen, qui nous demande pourquoi il n'arrive jamais à réussir ses cakes toujours gonflés et pâteux.
Ah, bah alors, en fait, c'est que Amaury, il doit utiliser... s'ils sont gonflés et pâteux, c'est que son four doit être, à mon avis, un petit peu trop chaud. Il faut privilégier une cuisson un peu plus lente pour qu'on ait une cuisson à cœur. S'ils sont gonflés, c'est que peut-être qu'il met un petit peu trop de levure ou de bicarbonate pour que ça gonfle trop fort. A priori, sans être dans la cuisine d'Amaury et en étant dans le fond de ma salle de bain avec ma boule de cristal, je vois que c'est deux petites explications.
Une question de Louise également qui regrette que ses tomates confites au four dégorgent beaucoup trop d'eau à la cuisson. Que faire?
Alors oui, la tomate, en fait, c'est la championne derrière le concombre, le radis, la salade de la teneur, puisque 94% de son poids est composé d'eau. Pour qu'on évite qu'elle lâche trop d'eau en cuisson, on va les faire dégorger. Et pour ça, on va saupoudrer soit les tomates coupées en rondelles, soit coupées en deux, avec du sel. On les retourne sur une grille au-dessus de l'évier.
Pendant combien de temps?
On va laisser ça à peu près 15 minutes et le sel, il faut pas s'inquiéter, le sel partira avec l'eau de la tomate.
D'accord. Ok, mais merci pour ces conseils et vous pouvez poser des questions à Grégory Cohen sur l'appli France Inter ou sur la page Facebook de l'émission. Elle, c'est la reine du crumble et du cake au citron, la so-british Christy Lapelle-Edouel, autrice de ces livres qui nous font du bien. Et on commence avec vous, Christy. Alors, ce week-end, Christina, vous nous conseillez la lecture de « Comment je suis devenue duchesse Goldblatt ». C'est publié à la Table Ronde et c'est signé d'un ou d'une anonyme.
On ne sait pas. «
Comment je suis devenue duchesse Goldblatt ».
Alors, c'est un curieux titre, n'est-ce pas? Le titre est un peu étrange. D'ailleurs, j'ai vu votre œil, Ali, qui était un peu surpris à la lecture du titre. On se demande ce que c'est. Alors d'abord, je vais vous dire, l'auteur est une autrice. Voilà, comme ça, au moins ça, on le sait. On ne sait toujours pas qui c'est. Mystère, elle reste anonyme, volontairement. Et le titre, en fait, Duchesse Goldblatt, le Duchesse, c'est en fait pas du tout un titre nobiliaire, c'est le nom de son labrador, voilà, qui s'appelait Duchesse, et Goldblatt, c'est le nom de famille de sa mère. Au moins une chose éclaircie. Alors, la couverture aussi est curieuse, hein, vous avez remarqué.
Oui, c'est un portrait de Franz Hals, portrait d'une dame âgée.
Voilà, qui est un très beau tableau, mais on se demande vraiment ce que ça a à voir avec Duchesse Goldblatt, de plus en plus curieux. Mais en fait, c'est très simple. L'autrice est une... Alors, on suppose qu'elle est jeune, puisqu'elle a un petit garçon qui a 8 ans, donc elle n'est pas très âgée. C'est son autobiographie. Et dans cette autobiographie, elle explique avec énormément de sensibilité et d'humour comment, justement, elle en est parvenue à cette fameuse Duchesse Goldblatt, qui est son pseudonyme, en tout cas qui est le personnage qu'elle a créé sur Twitter. Pourquoi a-t-elle créé ce personnage ? Parce qu'elle a traversé des choses très difficiles dans sa vie, avec son frère qui était profondément dépressif, puis un divorce très douloureux, la demi-perte, si j'ose dire, de la garde de son fils, enfin toute épreuve qu'elle a eu beaucoup de mal à franchir. Et pour s'aider, elle a décidé un beau matin de se créer un alias, la fameuse Duchesse Goldblatt sur Twitter. Et elle a commencé, alors c'est une idée formidable, elle a commencé en fait à jouer un jeu de double. Elle a joué avec son double. Donc, Duchesse Goldblatt est devenue, non pas son porte-parole, mais un autre personnage complètement différent d'elle. Une femme âgée qui dispense l'amour, la compréhension et l'humour à ses abonnés. Elle a connu un succès absolument fulgurant. Je ne sais pas combien de milliers d'abonnés, de millions même d'abonnés, elle a sur Twitter. Et elle a créé une communauté tellement importante avec ses tweets très drôles, plein d'humour, très décalé, toujours très décalé, qu'une communauté véritablement qui s'est créée aux États-Unis. Alors en France, ça va peut-être commencer, hein, le phénomène.
Il y a des
gens qui ont créé des balles Duchesse Goldblatt, qui ont fait imprimer des t-shirts, des mugs, qui se prennent en photo, qui trimballent le portrait de Duchesse Goldblatt partout où ils vont et qui prennent des selfies. C'est devenu un véritable phénomène. Et en réalité, elle a vraiment réussi, c'est vraiment très curieux, à fédérer quelque chose, à dire quelque chose à tous ces gens qui se sentaient, pour beaucoup en tout cas de ses abonnés, perdu, égaré.
Qu'est-ce qui vous plaît dans Comment je suis devenue Duchesse Goldblatt ?
Alors, c'est la sensibilité et son humour totalement décalé. Elle a un humour absolument dingue. Mais ce qui est formidablement intéressant, c'est qu'en réalité, dans son autobiographie, on comprend très bien que dans la vie, elle n'est absolument pas comme ça. Mais pas du tout. C'est une jeune femme visiblement assez timide, assez inhibée. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et cette Duchesse Goldblatt lui a permis de reprendre confiance en elle, mais aussi de découvrir son talent littéraire. Et elle a un talent littéraire incroyable, vraiment incroyable. Voilà, Guillemette est en train d'en lire. Vas-y, je t'en prie.
J'ai ouvert, mais vraiment au hasard. Hein. Je mourrai comme j'ai vécu, en riant de mes propres blagues et probablement en m'étouffant avec une touillette à café.
Et tout est comme ça.
Ah mais c'est génial.
Mais c'est génial. Et tout est comme ça. Et en fait, elle est devenue une espèce de figure maternelle, consolatrice, mais aussi un peu mère fouettarde féministe. Vous voyez, le genre est d'ailleurs sur la couverture. Il y a un de ses tweets que je trouve formidable aussi et qui dit « Et maintenant, s'il n'y a plus rien à dire, eh ben, j'aimerais bien revenir à mes conneries.
» Comment je suis devenue duchesse Goldblatt. Comment je suis devenue Duchesse Goldblatt. C'est signé d'un ou d'une anonyme, vraisemblablement.
Une anonyme.
Et c'est publié à la table ronde. Je ne vous le filerai pas, Guillemette, parce que je vais me le garder pour ce week-end.
Hein. Merci beaucoup.
Christina m'a vraiment donné envie de le lire.
Je viens de m'abonner à son formidable compte Twitter. Elle a donc 57 000 followers et effectivement, c'est super drôle.
C'est irrésistible.
Second conseil, Christina, les choses sont contre nous, de l'américaine Lucy Hellman, et c'est traduit de l'anglais par Claro et c'est édité au Seuil.
Voilà. Et Lucy Hellman est une écrivaine féministe très connue aussi aux États-Unis. Je suis désolée, elle vit en Angleterre, mais elle est américaine, d'origine américaine. Alors là, c'est complètement différent. C'est une succession de chroniques. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à savoir si elles avaient déjà été publiées dans les journaux ou ailleurs. En tout cas, sur des sujets aussi variés que les choses, c'est-à-dire les objets, qui visiblement l'énervent énormément, sont contre elle, se révoltent contre elle, les soutiens-gorge. Alors là, Je pense à vous, Ali, non pas. Je ne fais pas d'allusion. Je
ne fais pas d'allusion.
Vous faites allusion à l'émission d'hier.
Je fais allusion à l'émission d'hier.
Consacrée aux seins.
Sur les seins. Voilà. Et alors là, la chronique sur les soutiens-gorge, mais alors, je vous en prie, Guillemette et Maya, allez voir. Je vais vous le passer parce que c'est aussi irrésistible de drôlerie. Alors, son truc à elle, c'est l'exagération. C'est la caricature. Elle en fait des tonnes, ça devient énorme et ça devient tellement énorme, c'est tellement, ça finit par être grotesque qu'elle met en relief soudain le ridicule et l'exagération du patriarcat nous saute à la figure. On se dit mais non, oh ça va, elle est super énervante. Non, justement après une fois qu'on l'a reposée, on se dit ah il y a quand même quelque chose derrière tout ça qui serait peut-être pas si bête que ça. Et en effet c'est extrêmement intelligent, c'est tordant et tous les sujets qu'elle aborde. Alors il y a des sujets qui sont un peu loin de nous, comme bon des trucs très américains, mais ça n'empêche, ça fonctionne quand même. Et il y a un chapitre sur la petite maison dans la prairie, une relecture de la petite maison dans la prairie sous un angle féministe. Je vous garantis que c'est vraiment.
Faut y aller
fort.
Alors.
Oui. Eh bien, tu vas regarder, Guillemette. Je vais te le passer. Tu vas lire ça. Tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Et c'est aussi, c'est très,
ça s'appelle.
Très bien. Ça s'appelle Les choses sont contre nous, pour tous les gens qui détestent les objets et qui ont des relations difficiles avec eux. Et c'est publié au Seuil.
Et c'est signé Lucie Hellmann. Tous les conseils de Christina sont à retrouver sur l'appli et sur le site de France Inter. 10h18. Il est temps de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors Guillemette Audicino, quel personnage de fiction mérite toute notre amitié cette semaine ?
Alors, cher Ali, chères auditrices, chers auditeurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un faible pour les personnes, souvent des personnes âgées. Enfin, maintenant, je m'aperçois qu'elles peuvent être jeunes, mais se cacher derrière des alias âgés. Ces personnes qui font mine d'être choquées, alors qu'en fait, elles sont très ouvertes d'esprit. Prenez le temps de faire parler un peu vos grands-mères, et vous verrez. Dans le style de la vieille dame qui s'indigne d'abord, puis démontre sa capacité à regarder la réalité en face, il y a une Anglaise que je vénère. Violette Crawley. Comtesse douairière de Grantham, la reine de la saillie snob dans Downton Abbey. La série britannique de Julian Fellowes n'aurait pas été si triomphale, alors ça c'est sûr, hein, sans les fabuleuses moues dubitatives et les petits rires pointus de cette lady conservatrice aux yeux myosotis, incarnée magistralement par Maggie Smith.
Et votre comtesse douairière a un sacré art de la formule, hein, quand même.
Ah, ok, oui. Alors, au rayon aphorisme de l'aristocrate Vachard, nous avons « Vous êtes une femme avec un cerveau et des aptitudes convenables ? Cessez de geindre et trouvez quelque chose à faire. » Ou encore le si pertinent « Un manque de compassion peut être aussi vulgaire qu'un excès de larmes. » Alors, pour Violette, qui navigue à vue entre principes de l'époque victorienne et émergence d'un monde nouveau. Deux leitmotifs. Le célèbre et so british « Never complain, never explain », ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier. Mais aussi, particulièrement quand on est une femme, on garde la tête haute et on fait plier le réel. Parce que sa force réside d'ailleurs dans son pragmatisme. Un cadavre encombrant, une grossesse hors mariage, une alliance roturière. Après une petite vanne offusquée pour le principe, Violette digère et résout le problème, du moment que cela va dans le sens du domaine familial. Pour elle, ce n'est pas le destin individuel qui compte, mais ce qui lie la famille au-delà des modes et des mœurs. Ce qui compte, c'est Downtown, ce lieu commun, cet héritage qui tend un fil invisible entre hier, aujourd'hui et demain. Écoutez-la en VO, parce que de toute façon, il n'y a qu'une version de Violette.
Why did you not say this long ago? It seems too great a leap for you. Well, who do you think I am? Some maiden aunt who's never left the village?
Obviously not.
Well, don't think I approve, because I don't. At least I understand.
You are amazing, Violet. You haven't won, you know.
I don't believe in defeat.
Alors, je vous traduis.
On lui dit, pourquoi n'avoir rien dit avant? Par crainte de vous choquer. Alors là, Violette, mais pour qui vous me prenez? Pour une nonne qui n'a jamais quitté son village? Alors ne pensez pas que j'approuve. Ce n'est pas le cas. Enfin, Violette n'approuve jamais, hein, dans l'absolu. Mais je comprends. Vous êtes étonnante, Violette. Mais vous n'avez pas encore gagné, vous savez. Et donc c'est là qu'elle répond. Mais cet aphorisme, le meilleur du monde, je ne crois pas en la défaite. Je ne crois pas en la défaite. On dirait du Winston Churchill. Lui, il disait un peu différemment. Il disait « agissez comme s'il était impossible d'échouer ». Bon, il déclara aussi, le 13 mai 1940, devant la Chambre des communes, « Vous vous demandez quel est notre but ? Je réponds par un seul mot, la victoire. La victoire à n'importe quel prix. La victoire en dépit de toutes les terreurs. La victoire, quelque longue et difficile que soit la route pour y parvenir. Car sans victoire, il n'y a pas de survie. » Alors avec ses dentelles, ses secrets, ses manigances, mais aussi son attention aux autres et sa capacité à fédérer, Violette est le mur porteur pour faire résister le ciment transgénérationnel. À sa manière, elle est un exemple de philosophie politique. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur.
Encore un aphorisme de votre ami Guillemette?
Ben non, hein, enfin c'est encore du Churchill. Mais franchement, ça pourrait être signé Violette Crowley. Qui sait qu'on ne chemine pas intelligemment vers l'avenir sans regarder dans le rétroviseur?
Et Lady Christilla, est-ce que Violette Crowley est également votre amie?
Oh, je l'adore. Et je savoure chacune de ses scènes et de ses apparitions. Et en plus, il y a la prestance physique incroyable de Maggie Smith, qui est splendide. Elle est magnifique. Elle est d'une beauté, d'une élégance, d'une prestance. Enfin bon, bref, vous avez compris. J'en suis amoureuse.
Thibaut de Saint-Maurice, amateur de Downton Abbey et de Violette Crowley.
Oui, je suis d'accord. L'actrice est formidable. Mais je pense que c'est un personnage qui est capable de réconcilier n'importe quel spectateur français avec l'aristocratie anglaise.
Oui. Voilà. Et on devient, c'est dingue, hein, on devient tous anglophiles. Hein.
L'ami du vendredi à partager et à podcaster sur l'appli France Inter et c'est bien évidemment signé Guillemette Audicino. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Pouk-Gelaghi avec l'aide d'Alice Galtier et Lou Najamé. La réalisation a été signée Claire Destacan. La programmation musicale, Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, Pierre-Yves de Rolin, Florian Dorimini et Rémi Sistiaga. Dans un instant, direction les villages qui ont connu leur heure de gloire grâce à des personnalités comme Ravel, Bursenard, Henry Miller ou les Stones. Ce sera juste après les Dépêche Mode à 10h24.
And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel.
Dépêche Mode, Just Can't Get Enough.
Noël, tu as déjà voyagé?
Alors, oui, j'étais à Romorantin.
Grand bien vous fasse.
Je même été plus loin, jusqu'à Vierzon, j'étais.
Ali Rébéi.
Tu sais combien il y a de départements en France?
Oui.
Oui, bon, te fatigue pas, il y en a 90.
Sur France Inter.
Merde, c'est grand la France, hein.
Grand bien vous fasse loisir, et ce matin je vous propose une balade mondaine dans les villages français. Écoutons Colette qui a popularisé le village de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
C'est une maison de village à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille, elle rassemble autour d'elle une petite cité de 13 ou 15 cents habitants, un jardin négligé. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils.
Priscilla Pelédoil, vous êtes allée à Saint-Sauveur en puisée sur les traces de Colette.
Hein. Oui. C'est un très très joli village. Et puis la maison a été ouverte il n'y a pas si longtemps, après toute une souscription des amis de Colette, etc. Et oui, il faut y aller. Ça a un charme extraordinaire. C'est pas une très grande maison de village, hein, où son père était médecin. Mais c'est tellement joli et j'ai hâte de découvrir le jardin, évidemment. J'espère qu'il y aura des escargots dont parle si bien Colette en parlant d'un petit presbytère qu'elle avait confondu avec le mot escargot.
Bonjour Mathias de Bureau.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Citizen K. Alors après avoir publié de l'art d'ennuyer en racontant ses voyages, vous publiez un guide mondain des villages de France chez Alary Éditions. C'est un livre très élégant, à la couverture rigide, et à la très belle typo. Vous avez parcouru 500 villages de la France métropolitaine. On y retrouve 500 figures de l'histoire contemporaine. Il y a Colette dans votre livre, hein,
oui,
évidemment.
Alors il y a Colette pas forcément pour son village, mais Colette a beaucoup sillonné la France. Elle a notamment lancé une station balnéaire assez connue à Saint-Tropez, le Crotoy aussi. Elle a séjourné. Donc Colette, on peut la placer dans plein d'endroits en France. C'est pour ça que parfois il y a des personnalités comme ça difficiles à situer.
Alors c'est une plage déserte qui vous a donné envie d'écrire ce livre. C'est Laurence d'Arabie le point de départ. Expliquez-nous un petit peu.
Oui, Laurence d'Arabie, je faisais une promenade en vélo dans le Périgord vert, et je suis tombé sur une plaque à Chalut, où ici, Laurence d'Arabie a passé ses 20 ans avant d'accomplir son destin en Orient. Et en fait, c'est un épisode assez mal connu, mais Laurence d'Arabie a fait le Tour de France à 20 ans à vélo, tout un été.
Parce qu'il faisait un mémoire, il écrivait un mémoire sur les châteaux forts. Il a visité une cinquantaine de châteaux forts.
Oui, voilà, il faisait un mémoire à Oxford, d'ailleurs, qui a eu la mention très bien. Et c'est ce qui a initié un peu son goût de l'aventure. C'est assez étonnant, puisqu'il a fait tout ça à vélo, alors plein d'aventures, mordu par des chiens. Un jour, il demande de l'eau dans un village. Et évidemment, il sidère un peu les gens, puisque les gens ne buvaient que de l'alcool dans cette France un peu.
Alors vous avez parcouru, Mathias de Bureau, la France à vélo. Vous avez croisé les fantômes de nombreuses personnalités qui ont eu un moment de leur vie et besoin de retrouver leurs racines ou de s'en créer.
Oui, parfois ça peut être une seconde naissance. Oui, il y a des gens qui fuient, comme par exemple Sartre ne s'est absolument pas intéressé à son village natal. Et puis d'autres vont avoir des coups de cœur pour des endroits. C'est le cas par exemple de Joyce qui venait juste passer en 1939 à Noël, retrouver son petit-fils à Saint-Gérand-le-Puy. Et il va rester un an et finalement c'est la fin de sa vie. Et c'est assez étonnant parce que finalement le cordonnier, Le coiffeur, on se retrouvait interviewé, on retrouve ça dans les archives de l'INA, pour parler de Joyce, parce qu'il offrait ses livres, donc par exemple Finnegan Wakes, qui est le livre le plus illisible peut-être de la littérature, il offrait ça aux cordonniers, et donc après on leur demandait de témoigner, de leur raconter ce personnage.
Il y a d'ailleurs un musée James Joyce à Saint-Géran-le-Puy, hein, c'est dans l'Allier, hein, sur la mythique National 7. Hein.
Oui, exactement, c'est dans l'Allier.
Alors c'est Jules Renard qui écrit, hein, s'enfuir dans un village pour en faire le centre du monde.
Oui, c'est ce qui m'a un petit peu sidéré en commençant évidemment par Laurence d'Arabie, c'est que j'ai découvert que ces villages étaient finalement le centre du monde, puisque j'ai retrouvé à peu près toutes les personnalités majeures du XXe siècle. Et j'ai vraiment listé, et finalement j'ai trouvé que de très rares absents, comme Staline
ou
Marilyn Monroe.
Qui
sont jamais venus en France, pour des raisons à chaque fois très personnelles. Bon, Staline ne sortait pas de l'Union soviétique. Mais sinon, absolument, tout le monde, tous les personnages majeurs sont là. Mais c'est pas seulement, en plus, comme dans certains restaurants, où les pizzerias, on met les photos des clients. C'est des choses plus profondes. C'est vraiment des choses qui ont bouleversé leur œuvre et influencé.
Guillemette Odissino.
Ah oui, non, mais ça, je trouve ça fascinant, effectivement, qu'en fait, c'est le monde qui vient au village, en fait. Et qu'en fait, le grand auteur, celui qui est censé être universel, a souvent trouvé ou son inspiration ou une paix intérieure ou une manière de regarder le monde différemment, mais à côté d'une petite fontaine de village. Enfin, c'est très beau en fait ce rapport entre l'universel et le tout petit, l'intimité d'une place, d'un platane, qui fait qu'en fait le monde peut être finalement réduit quand on a du talent à peu de choses.
Alors notre pays détient sans doute le record de villages en Europe. 9 communes françaises sur 10 comptent moins de 2000 habitants.
Oui, on peut estimer à peu près à 30 000 villages, et c'est le record d'Europe en fait, même en Allemagne, en Italie, il y a de 3 fois moins de villages, et c'est une grande richesse française, et j'ai remarqué que dans les guides, depuis un demi-siècle, c'est toujours les mêmes villages, il y a 30 ou 50 villages qui reviennent tout le temps.
Et oui, je vous cite, vous dites que une sélection de villages fleuris pour puzzle ou boîte de chocolat, en tout cas votre livre n'est pas une sélection de villages fleuris pour puzzle ou boîte de chocolat, ni un sirupeux concours de beauté ordonné comme défilé de Miss.
Oui, c'est oui, évidemment, je vise quelque part un peu tous ces concours de villages de beauté, parce que j'ai remarqué que les villages qui inspiraient les grands artistes, les poètes, enfin tout simplement, on peut commencer par Verlaine et Rimbaud dans l'est de la France, c'est des villages le charme se mérite un peu, enfin on voit pas tout de suite que c'est des endroits merveilleux. Et j'ai voulu, faire découvrir des endroits, par exemple des villages qu'on traverse, comme ça, on ne voit pas immédiatement le charme. Et c'est des endroits bouleversants, enfin, pour beaucoup d'artistes.
Par exemple, on peut aller à Talloire, c'est près d'Annecy, avec son abbaye fondée au XIe siècle.
Oui, ça, à Talloire, je m'amuse un peu à dire que c'est devenu une abbaye très, très mondaine, un peu. Il y a le cas aussi de Solesmes, dans la Sarthe. Talloire, les peintres sont venus, Churchill,
Mark Twain.
Oui, Mark Twain, il y a Cézanne, et puis tout à coup l'histoire se bouscule un peu.
Pourquoi sont-ils venus à Talloire?
Parce que le paysage était merveilleux, enfin cette vue sur le lac, les eaux bleues, et ce qui est un peu étonnant, tout à coup il y a une visite, c'est dans les années 80, d'un dictateur. Alors ça, c'est, il s'y attendait pas du tout dans le village, et Talloire va devenir au centre de va se trouver au centre de l'attention médiatique. C'est donc Jean-Claude Duvalier, le dictateur d'Haïti, qui fuit et puis qui tombe sous le charme de
Richard Nixon aussi.
Oui, Richard Nixon.
Ou l'acteur Bruce Willis.
Dans d'autres, si on peut citer d'autres personnalités un peu sulfureuses.
Donc allez découvrir l'abbaye de Talloire, hein, près d'Annecy. Alors moi j'ai choisi, hein, dans votre livre, parce qu'évidemment c'est un énorme livre, en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai choisi un lieu fréquenté par l'explorateur et naturaliste Théodore Monod, ce grand spécialiste du Sahara qui aimait marcher et séjourner à Bobigny, non pas dans la banlieue parisienne, mais à Bobigny, en Côte d'Or. Bobigny, B-A-U-B-I-G-N-Y.
Oui, parce que effectivement, ce n'est connu que là-bas, mais on ne sait pas que ce grand marcheur dans le désert s'est inspiré là-bas. Il s'est passionné pour la flore, il ramassait des fleurs et des plantes, et puis il les mettait dans ses articles du Monde, et c'était en fait sa vraie retraite, quoi. D'ailleurs, j'ai eu au téléphone son fils, qui est toujours là-bas. C'est assez amusant, en fait, tout à coup. Alors, il y a une promenade, Théodore Monod. C'est de savoir qu'on n'est finalement pas obligé d'aller dans le désert ou de faire des grandes méharées. Et on peut avoir, enfin, ressentir des choses très fortes dans ce genre de décor.
Alors, à Vézelay, dans le Morvan, on retrouve pas mal de personnalités, hein, également. Hein.
Oui, alors, Vézelay... Il y a évidemment beaucoup de monde. Alors ça, c'est un peu le contre-exemple parce que ça fait partie des plus beaux villages de France. Mmh. Mais ce qui m'intéressait, c'est de découvrir des gens qui sont passés là-bas et peut-être moins connus. Et
Georges Bataille.
Voilà, Georges Bataille. C'est vrai que sa tombe est très, très poétique.
Puis Gainsbourg.
Et surtout, oui, voilà, Gainsbourg.
À la fin de sa vie.
Gainsbourg, il y a passé les dernières années de sa vie. Et pourtant, j'avais raconté que tout avait très mal commencé parce qu'il était à, je sais pas si on a le temps de raconter.
Oui, allez-y.
D'Avalon, 15 ans avant, il était, Jane Birkin souhaitait acheter un petit cottage, une petite maison dans le Morvan parce qu'elle aimait le paysage. Et donc, ils sont descendus à l'hostellerie de la Poste. Et après, Serge Gainsbourg a été entraîné à boire par le serveur.
Entraîné.
Oui. C'est peut-être le contraire.
Oui, c'est vrai. Et le serveur a dit, de verre en verre, a dit, ben, si vous voulez, venez chez moi. Donc ils ont roulé un peu dans la nuit, dans la deux chevaux du serveur. Et puis ils ont continué à boire des alcools locaux chez lui. Puis à un moment, c'était d'ailleurs un maître d'hôtel, a décroché un fusil et dit, maintenant tu vas me chanter la Micaouette. Donc ça avait effectivement jeté un froid. Il y a deux versions. Gainsbourg a dit à l'époque à Gilles Verlan qu'il était parti, a dit moi je chante même pas dans ma salle de bain. Et Jane Birkin a corrigé récemment dans ses mémoires, a dit non, d'une voix blanche, il a interprété la Micaouette.
Le regretté Gilles Verlan, historien du rock et biographe de Gainsbourg. Vous vouliez parler de Vézelay peut-être?
Oui, je voulais juste dire un mot. Il y a beaucoup de gens qui sont passés et qui ont vécu à Vézelay et il me semble, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que Bernard Clavel, il y avait une maison.
Ah oui, c'est possible.
Et
oui,
j'en suis quasi certaine, ouais. Dans le haut du village. Bon, Bernard Clavel, il est un petit peu oublié maintenant, mais merci. Maurice Clavel. Ouais. Maurice Clavel.
Merci pour cette information, Priscilla.
C'est avec plaisir.
Alors, Brassens est né à Sète, mais il adorait un port sauvage sur la presqu'île du Trégor à Lézardieu.
Oui, en fait, je me suis amusé aussi avec ce guide à placer des gens là où on les attend pas. Voilà, ça peut être Pagnol dans la Sarthe ou dans le Nord. Et là, effectivement, lui, on l'attend dans le Sud, mais pareil, une seconde naissance à la fin de sa vie. Oui, il est tombé en amour pour les Ardrieux. Et puis, voilà, sa cuisine, les saucissons, Donc, il ramenait à ses amis tout un tas de la gastronomie. Et il aimait bien. Ce qui est étonnant à chaque fois, c'est que les gens sont pas seulement intéressés par les paysages, mais Brassens aimait bien le côté assez peu loquace des habitants. Et juste un bonjour Georges, ça lui suffisait, mais il voulait pas en avoir plus, quoi. Et c'est important, ça.
Mais c'est vraiment, en fait, ça, c'est vraiment mignon de s'apercevoir que, pour les people aussi, il faut vraiment se débarrasser du pittoresque, en fait. C'est vrai qu'il y a vraiment des personnalités qu'on juge tellement dans le sud, d'autres dans le nord et tout. Tout ça, c'est vraiment, enfin, ce sont de fausses pistes. Il y a des amours, disons, il y a des amours très étranges avec les paysages, en fait. De belles embrassades différentes.
Alors, j'ai appris dans votre livre que c'est dans une ville du Finistère Sud, qu'est née la grand-mère maternelle de Sylvester Stallone, c'est ça?
Oui, c'est là.
Après vous, c'est ça, à 8 kilomètres de Quimperlé.
Oui, c'est une généalogie après qui remontera plus loin un peu. Mais c'est vrai, sa grand-mère, qui s'appelait Clarec, je crois, j'ai oublié le nom, mais sa grand-mère maternelle vient, elle avait épousé un militaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc fils de, enfin grand-père de Rambo, donc qui était un militaire américain de passage, et ses origines, alors évidemment, le maire de Trévoux attend avec impatience Sylvester Stallone, et ce qui est assez étonnant, c'est quand on questionne comme une personnalité quand même de cette envergure, quel lien il a avec la Bretagne, il a fait qu'un commentaire un jour sur la Bretagne, il a dit je comprends mieux pourquoi j'aime les crêpes.
Alors impossible de faire ce voyage mondain à travers les villages de France sans s'arrêter à Illiers-Combray, lieu de pèlerinage des amoureux de Proust. C'est en 1971 qu'Illiers ajoute le nom de la ville fictive de Combray, 100 ans après la naissance de Proust.
Oui, exactement. C'est très rare.
C'est rare.
C'est un cas unique. Là, oui, c'est pour remondir justement au côté pittoresque. Et ça, ce qui me plaît beaucoup dans Illiers Combray, c'est que c'est un village qui, en apparence, n'a absolument aucun charme. Mmh. Et qui va être le centre du plus grand roman de la littérature française, enfin, en tout cas, au début du siècle. Tout va se passer là, tout par-delà, le rêve de Proust, sa tente. On retrouve absolument tous les endroits, le château des Guermantes. Et il y a quelque chose de même fascinant. Enfin, je suis tombé sur ce passage dans La Recherche, où ce village, qui a en apparence aucun charme...
Dans l'Eure-et-Loire, hein.
Oui, dans l'Eure-et-Loire. Eh ben, Proust va faire un parallèle avec Venise. Et il va dire que c'est un parallèle assez osé. Donc, il est dans le clocher, de le miroitement du clocher. Il va voir le palais des Doges. Et voilà, pour l'histoire enfin, touristique, c'est quand même osé.
Alors, j'ai appris que les Marx Brothers, dans votre livre, avaient de fortes attaches dans le Bas-Rhin, à Merzwiller. J'espère que je prononce bien. C'est étonnant.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est encore... Il y a les racines, parfois, mais il y a aussi l'humour américain, puisque les Marx Brothers ont vraiment influencé le cinéma et l'humour américain. Mmh. Et en fait, ça... Tout démarre puisque c'est Simon Marx, le père donc des enfants, des frères Brothers. Marx vient de l'Est. Alors il était tailleur et toute leur vie vont faire des blagues sur ce très mauvais tailleur en fait qui faisait tout au jugé. Il n'avait pas de ruban, alors il oubliait les boutons, donc les enfants se retrouvaient à devoir livrer des costumes mais qui étaient absolument immettables. Et voilà, on a un peu les origines, ce mélange de l'esprit un peu talmudiste avec la franche bonhomie de l'Est.
Ça va faire plaisir à Guillemette, ça. Le duc de Windsor et Wallis Simpson aimaient passer leur week-end à Gif-sur-Yvette, c'est ça, dans l'Essonne ?
Oui, ils avaient une maison de week-end, très chic d'ailleurs, c'est très joli à côté des champs. Et... Oui, il descendait tout simplement en Rolls, voilà, il venait...
Tout simplement.
C'est Wallis Simpson, je crois qu'il avait la Rolls avec le bleu de ses yeux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît les sympathies du duc de Windsor pour les nazis et Hitler, et ils avaient un voisin, ils avaient Oswald Mosley, pas loin, à Orsay. Alors on imagine qu'il était le fondateur du parti nazi anglais, donc on imagine les conversations.
C'est chouette, c'est super, ça donne envie d'y aller. Ouais. Bon, allez, on va faire plaisir à Christina Pelédouelle. On va partir du côté de Barbizon, au bord de la forêt de Fontainebleau, et là-bas on peut notamment y croiser le fantôme de Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor et du cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde.
Oui, là on peut encore faire un parallèle finalement avec Laurence d'Arabie, puisque l'esprit d'aventure de Stevenson commence à Fontainebleau, et pas forcément... Il est souvent situé dans les Cévennes, mais il est tombé fou amoureux de cette forêt, qu'il appelait d'ailleurs la forêt du trésor. Ça lui a inspiré une nouvelle, le trésor des Franchards. Il a trouvé également à Barbizon, enfin en tout cas dans ces petits villages, l'amour, puisque Fanny Stevenson était là, l'accompagnait... elle était toute seule avec son fils, et voilà, elle était en compagnie des peintres.
Oui, des peintres qui ont beaucoup fréquenté cette région, Millet ou Corot. Christy Lapelle-Edouard.
Oui, la rencontre de Fanny et de Robert Louis s'est faite à Grès-sur-Loing, dans la pension Chevillard, au bord du Loing. Et c'est un endroit absolument magique. Et il a traversé, et son cousin était à Grès-sur-Loing. Ils se rencontraient au milieu de la forêt, et traversaient la forêt. Et une promenade a été recréée sur les traces de Stevenson au cœur de la forêt. Voilà, on peut encore le parcourir.
On finit sur la Côte d'Azur.
Je commençais à m'impatienter, moi, excusez-moi.
Oui, c'est vrai que Guillemette est niçoise. Au Cap d'Antibes, sur les traces de Scott Fitzgerald. Il écrivait à propos du Cap d'Antibes que c'était l'endroit rêvé pour vivre à la dure et fuir le monde. C'était évidemment ironique.
Oui, c'est vrai que ça a inspiré toute cette ambiance un peu trouble aussi, puisqu'il y avait aussi l'ambiance trouble de Fitzgerald, de l'argent un peu détourné. Aujourd'hui, oui, effectivement, toute cette région aussi habitée avant. Enfin, on en parle beaucoup maintenant avec les oligarques et les. Donc, on peut faire un parallèle. Et puis, il y avait même au Cap d'Antibes, il y avait même Bernard Madoff. Donc, je me suis permis de donner ses adresses préférées, parce que qui mieux que lui peut parler d'un bon resto,
Bernard Madoff. En tout cas, votre livre donne envie de voyager partout en France, dans des tas de villages méconnus. C'est vraiment très, très, très réussi. Et on va d'ailleurs enfin pouvoir voyager en train sans masque. C'est génial, la semaine prochaine. Donc c'est le guide mondain des villages de France de Mathias Dubureau. Restez avec nous, c'est l'heure de la chronique de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, ce matin, dans votre chronique philo, vous revenez sur la fin annoncée pour lundi prochain de l'obligation de porter le masque dans les transports en commun.
Mais oui Ali, le masque reste certes obligatoire si on se rend dans un établissement de santé, mais à partir de lundi donc, pour toutes et tous, dans les bus, les métros, les trams, les trains, les avions, les téléphériques et bien sûr aussi les calèches, on ne sera plus obligé de porter un masque.
Merci.
Voilà, avec
la diligence aussi.
Oui, c'est ça. Avec la levée de cette obligation, le masque disparaît donc enfin de notre vie quotidienne collective, 2 ans après y avoir fait irruption. Alors ma question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien, si c'est trop tôt ou trop tard, parce que comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas médecin.
Non.
Mais plutôt d'essayer de réfléchir à ce que la disparition du masque dans notre espace public nous fait à nous collectivement. Vous me direz, le premier effet, c'est sans doute un effet de soulagement. Plus besoin de penser à en avoir toujours un sur soi, plus besoin de le porter aussi évidemment. Ces masques qui furent l'objet de toute notre attention, qui ont été à un moment l'unique sujet de conversation et qui ont représenté un effort national, vont peu à peu devenir des souvenirs, des traces, des signes de la période singulière de pandémie que nous avons traversée.
Mais on va tout de même pas les regretter, ces masques, Thibault.
Non, a priori, on ne devrait pas les regretter, mais on pourrait juste prendre le temps de considérer qu'ils vont ainsi devenir, encore plus qu'ils ne l'étaient déjà, le signe iconique de cette pandémie de Covid-19. Pendant 2 ans, nous avons toutes et tous porté ce masque, de façon plus ou moins permanente, mais de façon collective. Il a été le signe le plus simple, le plus quotidien, le plus extérieur et le plus largement partagé que nous vivions. Une expérience commune à laquelle chacun, dans sa différence, et même dans la différence de son masque ou de sa couleur, était confronté. Et le propre d'une expérience commune, comme l'explique le philosophe Nietzsche dans un paragraphe de Par-delà bien et mal, c'est de faciliter l'entente et la compréhension d'un collectif. Partager de façon commune la même expérience donne naissance à quelque chose qui se comprend, écrit Nietzsche. Pourquoi ? Parce qu'une forme de vie commune devient une référence partagée. Tous les masques que nous avons portés ont constitué la réalité et deviennent aujourd'hui le souvenir de cette expérience que nous avons collectivement partagée. Riches ou pauvres, malades ou épargnés, jeunes ou vieux, nous avons porté des masques qui ont modifié pendant 2 ans la façon dont nous nous présentions aux autres dans l'espace public. Et ce masque, premier élément de protection de soi et des autres, a donc révélé la vulnérabilité de chacun comme nouveau dénominateur commun. Et ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Collectivement. Alors comprenons-nous bien, encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'éloge du masque ni de regretter la fin de l'obligation de le porter dans les transports collectifs, mais je remarque que ce petit bout de textile non tissé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, est devenu une mythologie à lui tout seul. Vous savez, la mythologie au sens où Roland Barthes parlait de mythologie, comme des éléments de notre quotidien qui deviennent des histoires, des capsules qui enferment un récit commun, des choses qui ne sont plus seulement des choses utiles et fonctionnelles, mais aussi des signes d'une époque. Nous avons vécu masqués pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ces masques furent le visage paradoxal de nos liens communs, et même si nous ne les portons plus, cela continue de nous lier les uns les autres par le souvenir aujourd'hui que nous en garderons.
Vous ne trouvez pas qu'il est brillant ce type de
travail? Oui, c'est vrai.
Guillemette Odissino.
Oui, si je peux rajouter quelque chose à cette brillante chronique, dans le côté iconique, c'est devenu de temps en temps un objet d'affection, puisque on a cessé de s'offrir les uns les autres des masques avec des motifs marrants, avec des fleurs. Moi, très récemment, on m'a offert un très très beau masque en tissu. Je suis limite de regretter parce que je ne sais pas quand je pourrais le porter. Mais ça va devenir quelque chose que je vais plier presque avec religion dans un tiroir. Ce sera le dernier masque qu'on m'aura offert.
Moi, j'ai fait ça avec les attestations de sortie. La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster bien évidemment sur l'appli France Inter et à partager sur les réseaux sociaux. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures terrestres avec notre chef préféré Grégory Cohen. Monsieur Grégory Cohen, arrêtez de chantonner, c'est l'heure de notre chronique.
Il chante dans sa salle de bain,
c'est normal.
Ça résonne toujours ou pas? Pour ce week-end, une recette légère et très savoureuse.
On va faire un tataki de thon en croûte de sésame.
Oui.
Alors pour réaliser ce tataki, qui veut dire cuit à l'extérieur, cru à l'intérieur, on aura besoin d'un filet de thon d'environ 500 grammes, du jus d'un demi-citron vert, d'une pointe de gingembre râpé, d'une cuillère à soupe de sauce soja, de 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, du poivre de moulin et environ 1 tasse de graines de sésame. Alors idéalement, c'est plus joli, un mélange de graines de sésame noires et dorées. C'est parti pour la recette. Dans un bol, on mélange le jus de citron, la cuillère à soupe d'huile de sésame, la sauce soja et le gingembre. On poivre, on dispose le thon dans le plat, on verse le mélange dessus. On retourne le thon pour bien l'enrober. On laisse mariner environ 5 minutes de chaque côté. Et puis après, on rajoute des graines de sésame sur toutes ses faces. J'ai l'impression de faire une animation dans un centre commercial.
Oui, parce que Thibaut de Saint-Maurice, vous ne le voyez pas parce que vous êtes à distance.
Il mime
votre recette.
Je fais les gestes pour essayer de m'en souvenir.
Le gars est brillant et en plus, c'est un mime.
Mais c'est ça.
Il sait tout faire. Allez, dans une poêle, on met le reste de l'huile de sésame. Donc je rappelle, hein, on a fait mariner notre thon, on a rajouté les graines de sésame pour l'enrober complètement, pour faire une sorte de croûte. Et dans une poêle, on met le reste d'huile de sésame. Et à feu moyen, on va mettre le thon dedans à cuire pendant environ 20 secondes de chaque côté. On le retire de la poêle, on le met sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Et là, on a une cuisson qui est donc crue à cœur. Si on veut une mi-cuit, on va le mettre 6 à 8 minutes au four à 180 degrés. On attend que le thon refroidisse, que les chairs du coup se raffermissent. Ce sera plus facile à couper. Et on le coupe en tranches très minces. On le sert avec une sauce très rapide, une sauce gingembre-ciboulette, une sauce express qui se réalise en mélangeant 3 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à café de gingembre râpé, le jus d'un citron vert et 3 branches de ciboulette. Finement ciselé. Voilà. Je me demande comment Thibaut a animé la ciboulette finement ciselée.
Non, il a cessé.
J'ai cessé.
Ah, il a cessé. Il vous écoute religieusement. Merci beaucoup, Grégory Cohen. On peut vous retrouver sur votre compte Instagram, Grégory Cohen off avec
deux F.
Et dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Parce que vous en saurez beaucoup sur le pénis des stars.
Je le dis par avance.
Et avant ça, on écoute Malik Judy Saatchi à 10h53. Interprété Saatchi.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux pas obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Thibaut de Saint-Maurice, vous parliez de quoi, hors antenne?
Laissez-moi tranquille.
Non, d'accord.
Écoutons Maya.
Il est temps donc de retrouver la chronique sexe de Maya Mazorette. On continue avec les mondanités. Maya, tu voulais nous parler de la sexualité des célébrités.
Les people ont-ils une vie sexuelle plus grosse que la nôtre? Au vu de l'adoration qu'ont pu susciter les Beatles, Amélie Nothomb ou Nabila, on pourrait se dire que oui, mais aujourd'hui il y a quand même un gros frein à l'épanouissement sexuel des stars, c'est l'épée de Damoclès du déballage public entre les sextapes, les photos volées, les indiscrétions des ex, les livres de révélation et même les confidences à la presse des patrons des sex shops, c'est déjà arrivé, c'est même arrivé à Madonna. Bon courage pour arriver à lâcher prise. Le risque du bad buzz côtoie le risque de chantage et dans les cas vraiment les plus graves, le risque de MeToo. Là, vous voyez où je veux en venir. En 2022, il y a fort à parier que les stars y réfléchissent à deux fois avant d'aller en soirée moule frite au club échangiste du quartier. Ne parlons même pas, Thibaut, de faire l'hélicobite à la fenêtre de son palace.
L'hélicobite, d'accord. Le sexe des stars est beaucoup plus exposé dans leur vie privée, mais également dans leur vie publique.
C'est vrai que ces dernières années, il y a eu une véritable épidémie de nudité à l'écran qui nous donne l'impression d'approcher au plus près de l'intimité des people. Alors, pour les femmes, on est habitués, mais maintenant, ça touche aussi les hommes. Dans les séries télé, le tabou du pénis est en train de tomber. On en voit partout, à la rigueur, ça devient banal. Enfin, presque banal, parce que les pénis qu'on voit à l'écran ne sont pas les vrais pénis des vrais acteurs. Voilà, je sais que t'es déçue, Ali. Voilà, j'espère que ton week-end va s'arrêter. Enfin, bon. Bien souvent, il se trouve que ce ne sont pas des vrais pénis du tout. Ce sont des prothèses réalisées par des concepteurs d'effets spéciaux. Alors, comment ça se passe? Eh ben, avant de lancer la production d'une scène de nu, il y a des réunions pour définir collégialement à quoi ressemble le pénis du héros au grand cœur ou du tueur psychopathe. Sachant que le pénis du personnage est censé refléter et influencer sa personnalité. Donc de la même manière qu'on design les vêtements d'un personnage pour le rendre plus cohérent, on design son pénis. Ça peut paraître logique, mais d'un point de vue éthique, ça remet une pièce dans la machine de la survalorisation du pénis. Notre culture confère déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence à la taille et à l'esthétique du sexe masculin. Mais si on en fait carrément le barème de la personnalité, eh ben on est reparti pour quelques décennies de complexes chez les hommes.
Alors on ne pourrait pas tout simplement demander à l'acteur de se déshabiller, Maya ?
On pourrait, mais c'est pas une demande innocente. Par exemple, un acteur reconnu, il peut refuser, ça c'est pas un souci. Mais si vous avez un jeune acteur débutant, il sera un peu obligé d'accepter, de peur de perdre le job, quitte à le regretter amèrement au moment de tomber son slip. Pour s'épargner ce genre de problème, les productions américaines partent du principe que la scène passera par un pénis prosthétique. Déjà parce que l'acteur n'a pas forcément le pénis adapté à son rôle. Aussi parce qu'on n'a pas envie que l'acteur soit moins concentré sur son rôle. Ses émotions, ses complexes pourraient faire perdre du temps à la production et sur le moment, le temps, c'est de l'argent. Ensuite, il y a aussi le fait que l'acteur n'a pas forcément envie qu'on lui parle que de son pénis pour le restant de sa carrière et pour l'instant, ce serait encore le cas. Et enfin, dernière raison, les agents protègent leur talent contre l'admiration, la violence, la moquerie et bien souvent le harcèlement. L'utilisation de prothèses permet de limiter la casse. Cette dynamique, elle crée une nouvelle normalité qui déboule dans notre quotidien au prix d'un paradoxe. Oui, on s'habitue à voir des pénis à l'écran, mais pas des vrais. Et souvent, ce sont des pénis très beaux, harmonieux, avec des dimensions très honorables. Donc, notre cerveau apprend à considérer comme banal quelque chose qui ne l'est pas et qui entretient des standards pas aussi irréalistes que ceux du porno, d'accord, mais quand même sacrément idéalisés. Chers amis hommes, vous n'êtes pas au bout de vos peines. J'ai quasiment envie de vous dire bienvenue dans le monde des femmes.
Mais oui.
La chronique sexe de Maya Mazorette à réécouter seule, à deux ou à plusieurs sur l'appli France Inter. Thibaut de Saint-Marie, vous ne voulez vraiment pas partager ce mot que vous avez appris récemment?
Non, hein, tout va bien.
C'était la lithophallophobie, la peur des pénis en érection.
Voilà, merci. Demain, merci, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans Bel et Bien sur France 2 avec Agathe Le Caron, André Manoukian et Christophe André. Merci à Mathias de Bureau d'être venu à le guide mondain des villages de France et publié chez Alary Éditions. Et lundi, dans Grand Bien Vous Fasse, coup de projecteur sur la santé cardiaque des femmes, trop longtemps négligée, insuffisance cardiaque, hypertension, arythmie. Nous attendons toutes vos questions dès maintenant sur l'appli France Inter.